France Musique.
Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, c'est Guitare Guitare. Je suis ravi de vous retrouver pour explorer avec vous l'univers de la guitare et des cordes pincées au sens large. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit focus sur les suites de Jean-Sébastien Bach, celles qui sont mentionnées dans son catalogue pour le luth. Alors d'emblée, je prends quelques précautions car rien n'indique qu'elles aient toutes été écrites spécifiquement pour le luth. Certaines d'entre elles ont une écriture qui évoque plus volontiers le clavier et ont été probablement écrites pour le clavecin luth, un instrument que Bach adorait et dont il possédait 2 exemplaires. D'autres sont des transcriptions pour le luth des suites pour violoncelle ou des partitas pour violon de la main de Jean-Sébastien Bach. Ce qui est sûr, c'est que Bach était en contact avec le luth. Il était proche de Sylvius Leopold Weiss, le grand luthiste virtuose dont on a déjà un peu parlé dans Guitare Guitare. Il était proche aussi de Johann Christian Hoffmann, un célèbre luthier de Leipzig spécialisé dans la fabrication de luths. On peut donc penser que Bach connaissait bien le fonctionnement de l'instrument et ses particularités acoustiques. Il devait probablement l'utiliser pour certains de ses continuos, et il l'utilise aussi spécifiquement dans les partitions de la Passion selon Saint-Jean et de l'Aude funèbre. Pour cette émission, on va écouter plus particulièrement quelques préludes. Le prélude, c'est ce moment où l'interprète se lance dans la suite de danse, où il se connecte à son instrument, où il chauffe ses doigts. C'est le mouvement le plus libre, celui qui peut se détacher un peu des codes stylistiques assez précis de chaque danse, celui où on ne sait pas très bien si le musicien qu'on écoute improvise ou s'il suit un texte. Thank you. Hopkinson Smith jouait ce prélude de la partita pour luth en mi majeur, qui est en fait une transcription polyphonique que Jean-Sébastien Bach a réalisée de sa troisième partita pour violon seul. Un exemple parmi tant d'autres de la grande flexibilité instrumentale de cette musique, c'était joué sur un luth baroque à 13 cœurs, probablement l'instrument que connaissait Bach par le biais de Weiss et de Hoffmann. C'est un chef-d'œuvre qui sonne parfaitement sur le luth avec ses effets de notes répétées, ses jeux sur plusieurs cordes. Et si au violon c'est une ouverture brillante, quasiment une pièce de bravoure, sur le luth, même si la difficulté est bien là, elle rentre dans l'instrument assez naturellement. Et Hopkinson est un maître dans sa manière d'articuler les phrases et de les rendre si éloquentes. Prélude de la suite en mi mineur, selon moi, c'est celui dans lequel l'écriture est la plus marquée par l'esprit du clavier. On commence par un passaggio assez libre, puis une ouverture dans le style fantastique avec des traits et des ornements très vifs. On imagine bien les mains qui filent sur le clavier. Et on termine avec une petite fugue très rapide, elle aussi. Il faut bien la solidité et la musicalité d'un John Williams pour faire rentrer tout ça dans la guitare sans donner l'impression de trop forcer. Thank you. Evangelina Mascardi dans le prélude de la mystérieuse partita BWV 997. C'est une interprétation sobre, intérieure, profonde, absolument superbe. Alors je disais mystérieuse car l'origine de cette suite est là aussi très incertaine. De récentes études musicologiques supposent que cette version pour luth serait en fait une transcription d'époque d'une pièce pour formation de chambre. Et on peut très bien l'imaginer avec cette basse profonde et descendante et ses réponses interrogatives dans un registre plus aigu. Là encore, la souplesse de cette musique nous surprend et ça stimule encore notre imagination et ça suscite encore aujourd'hui le désir de la réinventer. Vous écoutez France Musique et c'est Guitare Guitare. Nous étions en apesanteur dans une version du prélude, du triptyque prélude fugue allegro, joué par Riccardo Galen et sa guitare romantique. C'est à la fois d'une légèreté très poétique et c'est joué avec un toucher d'une solidité technique incroyable. Dans le catalogue des pièces instrumentales de la maturité de Bach, le prélude fugue Allegro est arrangé parmi les très grands chefs-d'œuvre. C'est une pièce à la fois bouleversante et lumineuse dans une tonalité majeure et qui, petit à petit, augmente sa densité d'écriture et son tempo.
Thank you.
on avait découvert Jadran Duncombe avec son premier disque génial Assassini Assassinati en duo avec le violoniste Kinga Ujazi. Et il vient de sortir en solo un disque back dont nous écoutions le prélude en sol mineur de la suite BWV 995, qui est en fait la transcription de la cinquième suite pour violoncelle seul. Ces transcriptions de la main de Bach sont précieuses parce qu'elles donnent beaucoup d'informations sur la manière dont circulait la musique, comment on adaptait en fonction de l'instrument, comment on enrichissait la polyphonie, comment on réalisait la basse continue, etc. L'approche de Jadran Duncombe est en tout cas ultra vivante, pleine de spontanéité, d'ornement, et on ne s'étonne pas qu'il revendique Rolf Lislevand comme une de ses principales influences. Le prélude de la suite numéro 4 pour violoncelle seule jouée au théorbe et transcrite non pas par Jean-Sébastien Bach mais par l'interprète, l'indispensable Hopkinson Smith. Guitare Guitare, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour notre panorama discographique mensuel. Merci à vous tous d'être à l'écoute. Merci à Félix Levaché et Nelly Portal de m'avoir aidé à réaliser cette émission et à Étienne Collin à la technique. On se retrouve sur l'appli Radio France si vous voulez nous écrire, si vous voulez télécharger nos podcasts et consulter tous les programmes en détail.
France Musique.
France Musique.
Vous vous allez l'adorer.
Il est 13h sur France Musique, c'est l'heure de retrouver Thierry Jousse.
À réécouter sur francemusique.fr.